inserimento alle spalle della difesa del Milan.
L'après-match avec Jalal Bouzrara.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'après-match. Un retour sur ce qui s'est passé un petit peu partout en Europe, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en France ou alors en Allemagne. Et puis bien sûr, le retour de la Ligue des Champions avec quelques affiches. Dès ce mardi, le Real Madrid qui devra se relancer après sa défaite face à Paris contre le club de Bruges. On suivra également la Juventus contre le Bayer Leverkusen. Mais la grande affiche de cette deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, le choc entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan, prévu mercredi. En Espagne, donc, pas de vainqueur dans le derby madrilène. Samedi, prudent, l'Atlético et le Real se sont neutralisés 0-0, permettant au FC Barcelone, enfin vainqueur à l'extérieur à Getafe, de revenir à 2 points du leader merengue. En Italie, l'Inter, la Juventus et l'Atalanta Bergame samedi, puis Naples et les deux équipes romaines dimanche. Tous les clubs européens de Serie A se sont imposés lors de la 6e journée, qui avait aussi l'AC Milan plongé dans la crise sous les coups de la Fiorentina et d'un certain Franck Ribéry. En Angleterre, Liverpool continue son cavalier seul après une victoire 1-0. Victoire étriquée à Sheffield, suivie par Manchester City, vainqueur à Everton, alors que Chelsea et Tottenham à 10 se sont relancés lors de cette 7e journée de la Première Ligue. Et puis le championnat de France avec Kylian Mbappé, tout est plus simple. Le retour du prodige a permis au PSG de gagner à Bordeaux et d'être seul en tête de la Ligue 1, alors que Lyon, de nouveau battu, est en crise à l'issue de la 8e journée. Et puis en Allemagne, 9 matchs, 8 victoires à l'extérieur et un nul, aucune victoire à domicile. La 6e journée de Bundesliga qui entre dans le livre des records du championnat d'Allemagne avec cette statistique insolite. On va accueillir nos deux premiers protagonistes ce soir dans l'après-match. J'accueille tout d'abord Hervé Penaud. Salut Hervé.
Bonjour à vous les amis. Oh, quel bonheur de vous retrouver avec cette Ligue des Champions.
La Ligue des Champions en Europe, la 2e journée donc, avec plusieurs clubs italiens représentés là aussi. On accueille Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. C'est le plaisir d'être aussi à côté d'Hervé Penaud parce que la France va jouer un rôle important cette saison, je vais le dire. Ils vont être au moins demi-finalistes.
Tu profites de l'absence en tout cas et de la programmation du passage de Fred Hermel en deuxième partie pour commencer à t'avancer comme ça et à le viser sans qu'il ne soit là.
Mais non, moi je veux être ami avec tout le monde, tous les consultants, sauf un peu l'Angleterre qui nous a un peu pris trop de place la saison dernière. Donc on est tous unis, tous contre l'adversaire anglais.
Tous voilà. Contre l'Angleterre, tous contre le Brexit. Alors avant d'aller en Angleterre et d'évoquer bien sûr les championnats anglais en seconde partie, les amis, on va parler de vos championnats respectifs et de vos représentants en Ligue des Champions. Mais avant la Coupe de la CAF, bien sûr, avec cette rencontre, bien sûr, des 16e de finale de la Ligue des Champions entre le Zamalek du Caire, le club égyptien, et les Sénégalais de Génération Foot. Une rencontre qui, finalement, n'a pas eu lieu. Et la CAF, maintenant, annonce dans un communiqué qu'elle va se prononcer bientôt sur cette nouvelle histoire. On a fini par un énorme scandale. L'histoire de la finale entre l'Espérance de Tunis et Louis Dade de Casablanca. On commence par un autre.
On prend les mêmes et on recommence à la CAF. C'est jamais terminé. Vous croyez qu'à un moment, ça va se terminer, tout va bien se passer. Mais non, ils sont capables de tout, ils sont capables de choses totalement inattendues. Alors là, je crois qu'on... Je dis pas qu'on bat des records, parce que déjà la finale, la manière dont elle s'est terminée, ça battait des records. Mais là, on se retrouve encore une situation très différente. C'est-à-dire que le Zamalek avait décidé de changer le jour de son match et le lieu de son match, hein, qui devait se dérouler normalement au Caire et qui s'est déroulé à Alexandrie. Et Génération Foot, les Sénégalais sont arrivés là-bas et l'ont su qu'au dernier moment. J'ai lu les lettres, les échanges à la fois entre Génération Foot et la CAF, mais on est dans l'absurde le plus total. Parce qu'en fait, il y a un règlement à la CAF qui stipule qu'il faut déjà donner 14 jours aux équipes pour savoir s'il y a un changement de lieu. Et une autre chose, ça doit être donné, pas dit par la commission interclub, ce qui n'a pas été du tout le cas sur ce coup-ci, puisque ça a simplement été envoyé par Anthony Baffo, secrétaire général de la CAF. Donc, du n'importe quoi. Et vous avez une équipe donc, qui est venue dans un stade le samedi, une autre équipe qui est venue dans un stade le dimanche, dans deux villes différentes, bah évidemment, il y a peu de chances qu'ils se rencontrent. Donc, le match a été purement et simplement annulé. Et la CAF va se repencher sur cette affaire. Mais attention, la CAF, une nouvelle fois, comme pour la finale de Ligue des Champions, elle avait tort. C'est-à-dire qu'elle n'a pas respecté ses propres règlements. Mais on commence à en avoir un petit peu ras-le-bol de toutes ces histoires. Et imaginez, par exemple, qu'on a expliqué que c'était un problème sécuritaire pour jouer au Caire. Et il faut savoir quand même qu'au Caire, ce même jour, il y a trois matchs qui ont eu lieu. Donc la sécurité, si vous voulez, elle est géométrie variable. Des fois, c'est intéressant, des fois, elle est importante, des fois, elle est un peu moins. Donc tout ça fait que ça a été une nouvelle fois à Capharnaüm. Et puis, cerise sur le gâteau, pour tout vous dire, c'est que Madi Touré, le dirigeant de Génération Foot, lui est carrément été appréhendé dans l'avion parce qu'il avait de l'argent sur lui, alors qu'il retournait sur Paris. Et d'après un magazine, c'est d'après le Record, le magazine, le quotidien, pardon, sportif sénégalais. Et donc ils l'ont vu avec 1500 euros. Ils se sont dit, il a pris cet argent pour, écoutez bien, acheter les arbitres. Et alors lui a vite expliqué qu'il avait ses 1500 euros, mais qu'il avait déjà dépensé largement plus pour les frais de son équipe durant tout le séjour. Donc voilà, et il est reparti, bien sûr, sans aucun souci. On nage en plein délire, c'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'est totalement inadmissible. Il y a des règlements, il faut appliquer ses propres règlements, sinon on ne s'en sortira jamais. Et en ce moment, force est de constater qu'on s'en sort pas complètement.
Bah, on s'en sort pas complètement, mon cher Hervé, alors que la CAF aujourd'hui, en tout cas, ait vu la multitude de scandales qui se succèdent. Eh bien, la CAF est aidée par la FIFA, la Fédération internationale de football, qui a décidé de s'investir. Il y a une mission de la FIFA qui est permanente en Égypte avec, bien sûr, la secrétaire générale de la Fédération internationale de football pour donner un coup de main aux dirigeants de la CAF. Mais là, on semble qu'on touche le fond.
On touche le fond, effectivement, mais attendez, elle donne un coup de main, mais elle ne peut pas non plus s'occuper de tous les textes et de toutes les commissions. Sinon, dans ces cas-là, on déplace la CAF à la FIFA et c'est la FIFA qui s'occupe de tout. Non, heureusement que la CAF est tout à fait capable de gérer ce genre de situation, mais force est de reconnaître aujourd'hui qu'il y a tellement de choses qui s'accumulent et de scandales qui s'accumulent que c'est vraiment très très problématique. Et attendez, on n'est pas encore au bout de nos surprises, parce que j'imagine encore qu'on va avoir des belles surprises sur l'histoire du CHAN au Cameroun, voire de la CAN. Alors attendez, ça on n'en est pas encore là, on aura l'occasion d'en discuter. Mais on se rend bien compte que pour l'instant, ça va mal. Alors on ne peut pas se cacher derrière une Coupe d'Afrique des Nations réussie, par exemple en Égypte, et encore grâce à l'Égypte, hein, qui a pu organiser tout ça assez vite, pour pouvoir dire, ah ben, finalement, on n'a jamais aussi bien géré la CAF. Aujourd'hui, les scandales s'accumulent de manière exponentielle et irritante, parce qu'à un moment, on pensait que ça allait quand même, on allait quand même tendre vers plus de professionnalisme, j'allais dire. Et là, aujourd'hui, une nouvelle fois, on retombe par terre.
Et à ton avis, comment ça va se terminer cette histoire Zamalek Génération Foot, Hervé?
Je pense qu'ils vont devoir rejouer le match. Parce qu'à partir du moment où les règlements ne sont pas appliqués, je disais la même chose pour la finale de la Ligue des champions africaines. Je ne voyais pas comment les Tunisiens pouvaient avoir match perdu alors que c'était l'équipe marocaine qui avait pas repris le match. Et là, de la même manière, eh bien, puisque vous n'avez pas appliqué vos règlements, c'est relativement simple. Il y avait un délai à respecter pour expliquer aux joueurs de Génération Foot que finalement le match aurait été délocalisé. Vous ne pouvez pas leur dire au dernier moment, alors qu'ils sont là depuis un jour ou deux jours, ah ben finalement ça ne se joue pas là, et puis ça ne se joue pas demain, ça se joue après-demain. Il y a des règlements, il faut les respecter. Donc je ne vois pas comment. Attention, parce que peut-être qu'on va donner match gagné à Zamalek une première fois, mais après, il y a aussi le recours au TAS, etc., etc. Ce qui s'est passé, évidemment, lors de la finale de la Ligue des Champions africaines.
Et c'est reparti pour un nouveau feuilleton. On va aller du côté de l'Italie cette fois, avec bien sûr cette nouvelle journée, la sixième journée de la Serie A. Pas grand-chose à retenir. Tous les Européens, comme je le disais dès l'entame de cette partie, ont été au rendez-vous. L'Inter, la Juve, l'Atalanta, Naples, l'AS Rome et la Lazio. Simone.
Bah oui, tous les grands ont gagné. Après, non, il y a plein de choses à retenir parce que je commence par les hauts, les du classement, c'est-à-dire l'Inter qui arrive à faire 6 sur 6. C'était plus de 50 ans que l'Inter n'arrivait pas à enchaîner une telle départ avec autant de victoires. Donc, c'est plutôt extraordinaire. Et encore une fois, il faut dire que le mérite, c'est bien sûr de certains joueurs, mais d'Antonio Conte qui a été capable de retrouver de la force, de vigueur et de but dans certains joueurs qu'on avait considérés un peu comme des joueurs insuffisants. Ailleurs, Lukaku, on l'a déjà dit, c'est l'idole de San Siro, mais face à la Sampdoria, il y a aussi eu un but de Alexis Sanchez. Imaginez ces joueurs que il était presque dans une tiroir de Cobham, du centre technique du Manchester dans les derniers mois, il jouait plus. Il est devenu pas encore titulaire, mais quand même important, même si Antonio Conte ne peut pas faire des miracles parce que Sanchez est réussi dans l'exploit de faire expulser avec une deuxième carton jaune pour une simulation plutôt ridicule. Donc il n'est pas encore devenu l'Alexis Sanchez de Arsenal ou qui faisait rêver l'Italie avant d'aller à Barcelone. Mais la force qu'on a vue de l'Inter, c'est de s'en sortir bien, même à 10. Elle menait 2-0, elle a marqué un troisième but après avoir encaissé la réduction du score de la Sampdoria. Il y a donc une force physique et mentale de l'Inter, chose qu'on a vue un peu moins chez la Juve, mais qui continue à avancer. Il y a un gros débat en Italie sur le fait de qui doit jouer à côté de Cristiano entre Dybala et Higuain, et c'est le vrai sujet qui va nous accompagner, je pense, pour toute la saison, qui est le partenaire idéal de Cristiano. Et pour le reste, tu l'as dit, on voit une vraie différence de niveau entre les tops de classement et les bas. En attendant de voir les résultats du Torino ce soir, s'il arrive à rattraper un peu cette course à la Ligue des Champions. Et quand on dit qu'il y a une vraie différence entre les top niveaux et les bas niveaux, malheureusement, dans les bas niveaux, aujourd'hui, il y a les Milan AC.
Voilà, donc on va parler du Milan AC qui a été sacré par la FIFA comme le plus grand club de l'histoire. Il y aura une cérémonie bientôt. J'ai accueilli la semaine dernière l'ancienne gloire du club Marco Simone qui m'ont parlé, Marco Simone qui entraîne aujourd'hui l'équipe du Shabab Mohammadi, un club de deuxième division. Alors ça va pas très bien, rien ne va plus même pour le Milan AC, corrigé à domicile par la Fiorentina et par ce revenant, je sais pas, il sort d'où, Ribéry, sorti au bout d'un match superbe sous une standing ovation de San Siro.
Mais oui, mais alors je crois que San Siro, du côté milanaise, de l'économie milaniste, on peut dire, c'est plus régalé à voir jouer Franck Ribéry pour les 88 minutes qu'il a été sur le terrain qui sur les deux dernières saisons, parce que Franck Ribéry a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire à niveau de technique, à niveau des vitesses, d'accélération, de être capable à lire la situation, jouer pour le coéquipier, provoquer l'action qui a mené au premier penalty de la Fiorentina. C'était un vrai plaisir de voir jouer Franck Ribéry, qui à son âge a montré d'avoir encore un niveau important. Et avec ces Franck Ribéry, la Fiorentina peut vraiment rêver de faire une belle saison. Et pourquoi pas viser l'Europe? On rappelle que sur les premières 4 matchs, la Fiorentina, elle avait commencé mal, mais elle avait joué face à Napoli, face à la Juve et face à l'Atalanta. Donc les 3 premières de la saison dernière, sur les premières 4 matchs, c'était pas un cadeau du calendrier. Par contre, Milan a été sifflé du début à la fin, sifflé pour Marco Giampaolo, l'entraîneur, avant le début du match. Et bien sûr, à la fin, il y avait la moitié du stade qui était parti, les virages étaient vides, ils avaient commencé à laisser les stades en plein match après cette énième défaite. C'est triste, mais aujourd'hui, Milan, c'est une pâle souvenir de la gloire du passé. Et il y a certains supporters qui, cette année, on commence à avoir peur, pas seulement de rester dehors de l'Europe, mais de jouer une saison en deuxième plan, et quelqu'un a peur même de jouer le maintien. Imaginez quelle situation catastrophique au Milan après un mois et demi des championnats.
Voilà, là, quelle horreur, hein. Mais de toute façon, on n'en est qu'à la sixième journée. Rassurez un petit peu les supporters du Milan. Si on va essayer de faire vite, les amis. On va revenir du côté d'Hervé à Paris. Paris qui a retrouvé Kylian Mbappé. Et avec Mbappé, tout est plus simple. Le retour du prodige a permis au PSG de gagner à Bordeaux et d'être seul en tête de la Ligue 1. Alors que Lyon, de nouveau battu. Est-ce qu'on peut déjà commencer à parler de crise à Lyon ?
Ah bah oui ! Un petit peu, disons. Il y a les mini-crises. C'est-à-dire que là, c'est la semaine décisive. Ils jouent à l'Eixic mercredi en Coupe d'Europe. Puis, le fameux derby à Saint-Etienne dimanche. S'il y a deux défaites là, sur ces deux matchs, je pense que Silvinho, c'est ciao, arrivederci. Alors, je ne sais pas le dire en portugais. Mais là, pour Silvinho, c'est la fin des haricots. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'y arrive pas. Et cette équipe, elle part un peu dans tous les sens. Ils tentent beaucoup de choses. Ils changent de positionnement tous les matchs à beaucoup de ses joueurs. On voit bien qu'il n'a pas les clés aujourd'hui. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un très bon entraîneur et que ça ne sera peut-être pas un très bon entraîneur. Le problème, c'est qu'il est arrivé sans aucune expérience, ne connaissant pas le championnat de France, ne connaissant pas les qualités même et les propres de ses propres joueurs, puisqu'il a fallu qu'il apprenne. Et ça fait que dès que ça a mal tourné, bah, il a tenté de changer, de faire plein d'amalgames, d'associations. Et bien parfois, ça a dérouté un petit peu tout le monde. Attendez, les joueurs sont toujours responsables quand même derrière sur un terrain. Mais quand vous êtes l'entraîneur, c'est vous qui avez les clés. Et évidemment, il est plus facile de virer un entraîneur que 11 joueurs. Le match à Nantes, une défaite contre Nantes sur un but ridicule de Marçal qui a mal tapé la balle et puis qui a fait un CSC, bah, ça résume un peu ce début de saison lyonnais. Ils avaient fait deux très bons matchs et depuis, il n'y a plus grand-chose. Mais moi, j'ai trouvé quand même, pour un petit peu tempérer le tableau, que sur la fin de match contre Nantes, sur la dernière heure, j'allais dire, il y avait quelque chose quand même. Le gardien nantais a fait un match fabuleux. Il a d'ailleurs une 9 sur 10 dans le journal d'équipe, dans le journal. Donc on sent qu'il s'est passé des petites choses. Maintenant, le problème, c'est que le programme est tellement compliqué avec Leipzig puis Saint-Etienne que là, ça fait un peu peur. Jean-Michel Aulas est intervenu tout de suite dans les colonnes de l'équipe pour un peu remettre la pression en expliquant que Juninho, il prenait pas son rôle assez bien comme il aurait pu imaginer. Pour lui, un directeur sportif, c'est quelqu'un d'être encore plus proche de l'entraîneur et surtout capable de dicter aussi ses points de vue tactiques et techniques. Bon, ça, c'est à voir. Et puis, il a un petit peu tancé Silvinho sans le tancer avec ses mots en disant que c'était sûrement un futur grand entraîneur. Il réussira ici ou ailleurs. Donc, vous voyez, pour l'instant, on est un peu dans cette incertitude sur Lyonnaise.
Elle est pas mal celle-là. Il réussira ici ou ailleurs. Voilà, c'est du pur Jean-Michel Aulas. Alors l'info chez toi, ça a été aussi cette véritable, rapidement mon cher Hervé, déclaration d'amour de Neymar. Il dit que ça va beaucoup mieux avec les supporters. C'est comme dans une histoire d'amour, ça va mieux. Je suis là pour donner ma vie au PSG.
Oh, oh, la, 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 la.
Ok, c'est bon. J'ai ma réponse.
Magnifique, ça. Je suis sûr que vous n'avez jamais parlé comme ça à une femme. C'est tellement c'est beau. Oh là là, incroyable. Non, alors là, on est quand même dans le délire le plus complet, parce que rappelons-nous ce qu'il avait dit une fois, il avait, après son premier match de retour, de toute façon, enfin non, pas du délire, je veux dire de l'excès, voilà. C'est quelqu'un, alors après son premier match, quand il est revenu, il avait dit de toute façon, je sais que maintenant, en gros, je serai sifflé partout, que ce soit au Parc des Princes ou à l'extérieur. Et là, d'un seul coup, il revient à de meilleurs sentiments. Mais je crois que, je l'ai souvent dit ici, je crois que c'est un enfant, Neymar. Donc Neymar, il dit un peu ce qu'il ressent à un moment précis. Il y a 15 jours, il était énervé par les sifflets et les insultes envers son père, faut pas l'oublier. Et puis là, d'un seul coup, ça va un peu mieux. Troisième but, attendez, trois buts sur trois victoires, 1-0 du Paris Saint-Germain. Certes, Neymar, phénoménal. Et là, en plus, sur une passe de Kylian Mbappé qui vient juste de rentrer, autant vous dire, ça y est, le soleil revient sur le Paris Saint-Germain. Et surtout, Neymar est décisif, ce qui prouve d'ailleurs qu'il est là pour être bon. Il est loin de sa meilleure forme. Alors là, on se rend bien compte qu'il n'est pas capable de faire tout ce qu'il fait d'habitude. Il a encore beaucoup, beaucoup de travail, mais il est décisif. Et décisif sur des buts magnifiques. Et là, sur un but de renard, franchement, alors après, il peut se permettre toutes les déclarations. Vous vous rendez compte, il va voir la presse tout le temps maintenant. La prochaine fois, il va dire quoi? Il va peut-être se marier à Paris. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Disons, bon, tempérons tous ses propos. Pour l'instant, disons que ce qui se passe, c'est très bien pour lui. Ils vont avoir un match compliqué à Galatasaray en Turquie. Ben, pas avec lui, puisque lui est suspendu. Mais ça va être intéressant de voir ce Paris Saint-Germain là. Et puis Neymar, bon ben pour l'instant tout refonctionne comme avant, comme il l'avait fait pendant 6 mois avant sa blessure.
Alors la Ligue des Champions, parlons-en donc avec notamment la Juventus qui accueille le Bayer Leverkusen, mon cher Simone Rovera.
Bah oui, c'est un match qui on dirait simple sur les papiers, mais on sait bien que c'est un match que la Juve ne peut pas rater. La Juve arrive de deux courtes victoires, on a dit, face à Brescia et Spal, donc deux équipes de bas des tableaux. N'est pas totalement rassurée. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas bien marché sur le terrain, dehors du terrain. Imaginez que ce week-end, la Juve a dû jouer avec Matuidi latéral gauche défensif et Cuadrado sur l'autre côté. Donc il y a des blessures, il y a des situations un peu compliquées. Alexandro a eu un deuil familial, il a dû partir au Brésil, il revient, il devrait être titulaire, mais on se demande quelle va être sa vraie condition. Il y a un débat énorme en Italie. Est-ce que la Juve c'est mieux avec Dybala et Cristiano ou Higuain et Cristiano? Et ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que avec Higuain, Cristiano a un peu plus d'espace et Dybala, quand il est sur le terrain, il fait des très belles choses, oui, mais très loin du but. Donc, face au Leverkusen, moi je ne me doute pas qu'il y aura un match très ordonné de la Juve et probablement une victoire, parce que on est en train de voir une équipe qui vraiment monte en puissance petit à petit, et en Ligue des Champions, comme déjà face à l'Atlético, montre son meilleur visage. Mais on aura des réponses importantes, surtout pour Maurizio Sarri, qui va commencer sa campagne européenne à domicile, au Juventus Stadium. Et pour l'instant, pour moi, n'a rien montré de vraiment très différent par rapport à ce que faisait Allegri. Mais on sait bien que ce n'est pas là les Serie A qu'on lui demande. On lui demande de faire un beau parcours en Ligue des Champions et pourquoi pas la gagner. Et face à une équipe dangereuse qui joue bien et qui joue offensif comme les Leverkusen, c'est peut-être les meilleurs tests européens qui pouvaient arriver en ce début de saison.
Alors, il y aura aussi un autre club italien, le club en forme du moment, l'Inter. Moi, j'ai qualifié ce match du choc de cette journée. Le déplacement de l'Inter de Milan qui a gagné tous ses matchs en Serie A au Camp Nou, chez une équipe du Barça qui semble encore aller pas encore retrouver sa vitesse de croisière. Et son Messi.
Et ça peut faire, oui, ça pourrait faire un peu espérer l'Inter qui se trouve dans une situation un peu compliquée parce que on a dit, oui, 6 victoires en championnat, mais n'oublions pas qu'est-ce qu'il y a dimanche soir, Inter-Juve, les matchs qui peuvent lancer l'Inter avec un énorme avantage en championnat. Mais qu'est-ce que faire de ces matchs face à Barcelone? On aurait pu imaginer un turnover, Conte qui fait des choix un peu différents, mais non. Conte a fait tourner énormément ce week-end Lukaku sur le banc de touche, Barella sur le banc de touche, Godin sur le banc de touche. Donc, des joueurs clés qui ont reposé, ou quand même pas 90 minutes parce que Lukaku est rentré en jeu en deuxième mi-temps. Mais donc, Antonio Conte veut chercher de marquer des points importants à Barcelone, aussi parce que les pires visages de l'Inter sur ce début de saison, on l'a vu bien en Ligue des Champions, face à l'équipe de Prague, à domicile, où ils ont évité la défaite qu'à la dernière instance. Donc, je crois que l'Inter ne va pas jouer un match au 100%. Il ne va pas jouer les matchs de la vie, même si en Italie, on parle beaucoup de ce souvenir magnifique de 2010, Mourinho, la demi-finale, et on fait des comparaisons entre Conte et Mourinho, qui aujourd'hui, c'est trop tôt pour faire, mais l'Inter va à Barcelone avec une envie de marquer des points et de marquer un coup. Parce que je connais bien Antonio Conte, il ne voudrait jamais se retrouver face à la Juve avec une défaite, et pourquoi pas une lourde défaite sur les dos pour avoir trop fait tourner à Barcelone. Donc oui, ça va être les chocs de cette semaine en Ligue des Champions, parce que l'Inter va arriver vraiment au 100% pour jouer ces matchs.
Merci beaucoup Simone Rovera, merci beaucoup à notre ami Hervé Penon. Vous retrouvera bien entendu vendredi prochain, restez à l'écoute, la seconde partie de l'après-match, ça sera tout à l'heure. Mes amis, dans cette seconde partie de l'après-match, après bien sûr l'Italie et la France, on va essayer d'évoquer trois championnats en plus de la soirée de Ligue des Champions. Donc je vais demander à mes différents consultants d'être brefs, d'être précis et d'être comme toujours tout aussi pertinents. Salut Fred Hermel.
Bonsoir Jalal, bonsoir Antos, en direct du bureau madrilène de l'avant-match et de l'après-match, le stade Santiago Bernabéu.
Il est toujours là où ça se passe. David Lortolari, salut David.
Salut Jalal, salut Fred et bonsoir à tous.
Salut David.
Alors, avant d'évoquer donc cette soirée de Ligue des Champions, d'abord la Liga, il n'y a pas eu de vainqueur dans le derby madrilène. Ils étaient un peu prudents, l'Atlético et le Real Madrid. Ils se sont neutralisés 0-0. Je sais qu'on va pas être d'accord parce que je t'espionne un petit peu, mon cher Fred. Je suis un peu tes posts sur les réseaux sociaux. Ta séance de sport dans le club municipal, pas loin de chez toi à Madrid. Ton vélo qui ne bouge pas. Et ton avis sur le derby de l'Atlético face au Real. Où tu estimes, je partage tout ça, de toute façon c'était public, c'est sur Instagram, que tu as trouvé ce match, c'était un bon match et que les matchs de football maintenant, il faudra désormais les suivre sur des stades et pas devant les chaînes de télé. Et ben ça c'est pas une bonne nouvelle hein, pour les footballeurs hein, et pour leur salaire et leur fin de mois.
Alors je vois que nous avons changé de studio, mais que tu as toujours ta mauvaise foi légendaire. Ce que je dis exactement, c'est que moi je trouve que c'est un match qui... Je comprends que pour les amateurs du football PlayStation, pour les gens qui n'aiment que les résumés de matchs à la télé, qui n'aiment que le spectaculaire, je comprends qu'on puisse s'ennuyer devant un match comme ça. Après, quand on est un vieux comme moi... et qu'on a vu beaucoup beaucoup de matchs dans sa vie et beaucoup de matchs dans les stades. En plus au Wanda, là où on est en presse, on est un petit peu haut et on voyait très bien les lignes bien dessinées et je trouve qu'on peut trouver du plaisir et j'ai trouvé du plaisir à cette rencontre où il y avait deux entraîneurs qui ont maîtrisé leur match et des joueurs qui ont respecté les ordres de leurs entraîneurs. Savoir ne pas encaisser de but, empêcher l'adversaire de tirer au but, c'est aussi ça le football. Surtout que le Real Madrid, il y a 10 jours, en a pris 3 à Paris. Jamais Zidane n'avait pris 3 buts, avait pris un 3-0 en Ligue des Champions, jamais. Et donc c'est normal que depuis, chat échaudé craint l'eau tiède, comme on dit.
Pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas Sergio Ramos.
Voilà, et c'est aussi et quand il y a Ramos, et ben Varane il est meilleur aussi. Ouais. Les autres sont rassurés.
Donc je t'assure, j'aurais eu le temps, Fred, j'aurais adoré faire ce débat avec toi.
On le fera un autre jour.
Mais on le fera un autre jour. Je t'invite même à Tanger ou dans notre studio de Rabat pour faire ce débat sur les matchs de foot. Ça se regarde dans des stades et pas vraiment à la télé.
Ouais, et puis dans les stades, il y a même des pigeons qui, pendant le direct, lui font caca dessus. À l'instant même, en direct live. Voilà, c'est ça quand on est sur le terrain. Je prends des risques, je le reconnais.
Mon cher Fred. Alors, on va parler aussi du Barça. Ça va mieux. Il y a un passeur décisif du côté du FC Barcelone. C'est le meilleur joueur du club depuis le début de la saison. Et c'est un joueur qui a le droit de jouer avec les mains. C'est un gardien de but. Il s'appelle Ter Stegen.
Alors, c'est vrai que le résultat est rassurant parce que, sincèrement, aller jouer à Rétafé, c'est très dur. Vraiment, hein. Et le Barça souffre 100 et haut tous les ans, le Real souffre 100 et haut, l'Atlético souffre 100 et haut. Simplement, je pense que c'est pas très rassurant. C'est rassurant au niveau du résultat, mais pas au niveau de la forme, parce que c'est vrai que ce sont des erreurs défensives de cette équipe de Rétafé qui ont permis au Barça de l'emporter 2-0. Oui, Ter Stegen, je dis toujours que c'est le meilleur gardien du monde. Après, bon, samedi soir, je pensais que c'était Oblak après la main extraordinaire sur la tête de Benzema. Franchement, c'est un jour c'est Ter Stegen, le lendemain c'est Oblak. On a en Espagne les deux meilleurs gardiens du monde et que personne ne vienne me contredire là-dessus. Ter Stegen qui est très intelligent puisque dans ce Barça qui a beaucoup de mal à créer du jeu, à construire. C'est vrai que de jouer en contre avec un gardien qui lance un très très long ballon devant et avec un Luis Suarez qui sait faire ce genre, encore heureusement pour le Barça, qui sait encore profiter de ce genre de passes tellement longues et la puissance qu'il a pour résister aux défenseurs. Et puis cette petite pichenette se lobe sur le gardien du Soria, le gardien de Rétafé, qui reconnaît lui-même qu'il a fait une énorme bêtise. Mais bon... C'est une victoire quand même qui fait du bien parce que le Barça venait de plusieurs résultats négatifs et donc c'était bien de gagner là où il ne s'attendait pas forcément à le faire.
Alors, on va aller du côté de l'Allemagne rapidement maintenant les amis. Il y a eu une folle journée quand même cette sixième journée de Bundesliga. Elle est même entrée dans le livre des records du championnat d'Allemagne. Statistique insolite les amis, 8 victoires à l'extérieur. 9 matchs, 8 victoires à l'extérieur et un nul. Aucune des équipes qui recevait en Allemagne n'a gagné.
Oui, c'est complètement fou, effectivement. Et le meilleur gardien du monde étant en Allemagne, forcément, le Bayern s'est imposé, puisque c'est Manuel Neuer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le sélectionneur qui lui préfère Neuer donc à Ter Stegen. Bon, ça, c'est un débat qu'on n'abordera pas ce soir parce qu'on y perdrait trop de temps. Effectivement, c'est un bon résumé, une journée folle. Le leader Leipzig, qui fait son premier faux pas de la saison, tiens, juste avant de jouer contre Lyon cette semaine, à la maison contre Schalke. Schalke est en train de trouver une harmonie qu'il a cherchée pendant tellement d'années. Ces derniers temps, c'était pitoyable. Et là, avec le nouvel entraîneur David Wagner, ça se passe beaucoup mieux à Schalke. Et bien, il est venu surprendre Leipzig à l'extérieur. Dortmund a continué dans ses travers. Il a mené, il a été dominateur et pourtant il fait un nul à la maison contre Werder Bremen. Ça commence à devenir une maladie qui va être inquiétante sur la scène européenne. Francfort est allé s'imposer à l'Union Berlin. Bon, ça c'est logique quelque part. Wolfsburg est allé s'imposer à Mayence. C'est logique aussi parce que Wolfsburg est performant cette saison. Leverkusen qui est sur courant alternatif et avec sa puissance de feu en attaque, est allé planter 3 buts à Augsbourg. Quelque part, c'est compréhensible. Il faut dire un mot important et indispensable, Jalal, sur le Bayern. 3-2 à l'extérieur contre Paderborn. Forcément, l'entraîneur Niko Kovac n'est pas satisfait parce que même s'il y a une puissance de feu avec ce Bayern qui est en train de découvrir une relation, un duo très intéressant entre Coutinho, tiens, que Fred connaît, et Lewandowski, malgré cela, eh bien, on a pris 2 buts et forcément, ça fait un peu tâche contre un promu. Mais bon, c'est une victoire à l'extérieur aussi qui est logique de la part du Bayern. Le Bayern qui prend la tête, mais c'est vrai que c'est une Bundesliga un peu folle et conformément à ce qu'on a dit les dernières semaines, il y a beaucoup, beaucoup de candidats en haut de classement et ça donne des idées un peu à tout le monde. Et bon, c'est une formule un peu classique, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui peuvent gagner contre beaucoup d'autres clubs dans cette Bundesliga. C'est ce qui la rend assez folle. C'est vraiment intéressant cette saison, plus que les saisons dernières.
Alors je vais rester avec toi David et j'ouvre avec toi la page Ligue des Champions, en tout cas en ce qui concerne l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre, puisque Aurélien Devernois va se joindre à nous également. Alors plusieurs affiches qui concernent les clubs allemands en Ligue des Champions. Alors donne-nous les principaux, en tout cas les principaux matchs à suivre.
Dans le groupe du FC Barcelone, le Borussia Dortmund va devoir aller prendre des points, 3 points au Slavia Prague. Ça, ce sera mercredi et c'est indispensable si Dortmund veut essayer d'avoir une chance de lutter pour la première place dans ce groupe où il y a le Barça, mais où il y a aussi l'Inter Milan. Donc il faudra pas se louper pour Dortmund. Un peu de pression psychologique et du coup, comme c'est l'une des faiblesses actuelles de ce club, c'est intéressant de suivre Dortmund en déplacement. Leipzig reçoit Lyon. Ça y est, Leipzig affirme ses ambitions pour essayer de gagner le titre cette saison en Allemagne et pour être meilleur que lors de ses premières expériences en Ligue des Champions, c'est-à-dire franchir le cap des matchs de poule. Et Leipzig va jouer contre Lyon et ça c'est intéressant à la maison, évidemment. Et puis pour les autres clubs, c'est un peu déséquilibré. Il faudra gagner là aussi, à la fois pour Wolfsburg en Europa League plus tard dans la semaine, pour le Bayer Leverkusen aussi. Vraiment, le point commun, Jalal, de toutes ces rencontres et de toutes ces parties, c'est vrai pour le Bayern aussi, toutes les équipes allemandes engagées cette semaine doivent pouvoir s'imposer. Je vous garantis pas, je vous promets pas un 12 points sur 12 lorsqu'on fera la prochaine émission, mais en tout cas, c'est l'espoir des clubs.
Merci beaucoup David Lortolari, on va te retrouver bien entendu vendredi pour nous commenter tout ça. Je reviens à Madrid, Madrid qui accueille la formation de Bruges, le Real de Zidane qui devra absolument réagir à Bernabeu face à l'adversaire le plus abordable de la poule, l'équipe de Bruges. Zinedine Zidane a tenu aujourd'hui un point de presse juste avant cette rencontre au stade Santiago Bernabéu, en présence bien sûr de notre consultant Fred Hermel. Et la première question de Fred, c'était au sujet de Karim Benzema et le rôle de Karim Benzema depuis le début de cette saison. La réponse de Zinedine Zidane.
C'est vrai que c'est une compétition très spéciale pour tout le monde. On sait l'histoire quand on regarde, en fait, quand on est à l'intérieur de ce club. Voilà, c'est le club qui a le plus de Champions League dans toute l'histoire. Le joueur qu'il est, je vais pas dire grand chose, en fait. Je vais pas être original en parlant du joueur Karim, le joueur qu'il est. Moi, ce que j'aime aujourd'hui, et ce que je trouve chez lui, c'est qu'il est un peu apaisé. C'est-à-dire que le joueur, on le connaît. Maintenant, il est différent de ce côté-là. C'est-à-dire, je vois quelqu'un de plus responsable, de plus apaisé. Et ça, ça fait toute la différence. Vraiment. Vraiment, ça fait toute la différence aux yeux de tout le monde aussi, des autres. Et il faut profiter de ça. Et
j'aimerais revenir sur ce qui a changé depuis la défaite à Paris. On a vu que vous n'avez pas encaissé un but en 3 matchs, que défensivement les boulons étaient serrés. Est-ce que c'est le genre de défaite à Paris qui a permis de réveiller tout le monde et peut-être de lancer la saison? Est-ce que ça a piqué l'orgueil de votre effectif? Est-ce que vous avez le sentiment que le Real est lancé grâce à cette défaite?
Oui, de toute façon, c'est sûr que cette défaite nous a fait du mal, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. La réalité, c'est qu'on est quatrième aujourd'hui quand on va commencer notre match demain. Et ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on a fait 3 matchs depuis. On a été bon. On a été très bon défensivement. On fait des choses bien. On peut toujours s'améliorer. Et c'est ce que j'ai envie de dire toujours à mes joueurs, de toute façon. Chaque match est différent. Chaque match a son histoire. Et celui de demain, pour nous, c'est le plus important. Il nous en reste 2 avant le prochain parrain. Et là, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il faut le profiter. C'est-à-dire que demain, c'est vraiment très important de gagner notre match. De faire tout, en tous les cas, pour le gagner.
Et il faudra le gagner, ce match, dit Zinedine Zidane, mon cher Fred.
Alors, je vais traduire du zidanien. Quand il parle d'un paron, ouais, un paron, c'est le break international.
C'est le break,
paron. Voilà, il faisait un hispanisme, comme on dit. Bah oui, il a raison. Le Real est quatrième. Aujourd'hui, si la phase de poule s'arrêtait aujourd'hui, le Real Madrid ne serait pas qualifié pour les 8e de Ligue des Champions, même pas pour l'Europa League. Donc, non, bon, ça va s'arranger, mais.
Bonne nouvelle pour toi, ça s'arrête pas aujourd'hui, hein.
Bah voilà, bah oui, vaut mieux, puis pour tout le monde. Mais c'est vrai que Zizou, il a besoin, et il a eu raison de rappeler ça. Le Real, ça a l'air, on dit oui, Bruges, bah ouais. Mais sauf que si tu gagnes pas contre Bruges, là, il y a l'alerte. Donc, c'est un match beaucoup plus important qu'il en a l'air.
Un match beaucoup plus important qu'il en a l'air pour cette formation du Real Madrid. Et pour celui qu'on attend depuis le début de saison, celui qui a osé porter le numéro 7, le numéro d'un certain Cristiano Ronaldo, attendu comme la véritable star, le joueur qui va donner un plus pour cette équipe. Je parle d'Eden Hazard. Eden Hazard qui n'est pas encore le tueur annoncé par Zinedine Zidane. Est-ce que cette recrue sera enfin létale contre ses compatriotes du club de Bruges? Tu as posé la question aussi, mon cher Fred, à Eden Hazard. Comment il voit sa situation au Real Madrid? On l'écoute.
Ça va, je me sens bien. Voilà, c'est vrai que les gens attendent beaucoup de moi. Moi aussi, j'attends beaucoup de moi. Je pense que personnellement, on peut faire beaucoup mieux. À moi, faire mieux à l'entraînement, en match. Les critiques, elles sont là, c'est normal. Je me critique moi-même. Mais voilà, je pense que à force de travailler tous les jours, à force de prendre du plaisir tous les jours, on va faire quelque chose de grand cette année. Donc, on a une belle équipe. Tout n'est pas parfait, mais je pense qu'il y a des bonnes choses. On est premier en Liga, on perd le premier match contre Paris. Mais voilà, après, c'est sûr que moi, j'ai pris un peu de retard avec la blessure, mais voilà, maintenant c'est derrière moi. Maintenant, ce qui me manque, c'est juste, voilà, les gens attendent de moi que je marque, que je sois décisif sur le terrain. Je pense que quand je vais commencer à marquer, à être décisif, à faire des bons matchs, ben, ça va s'enchaîner tout simplement. Donc voilà, pour moi, c'est juste ce qui me manque, c'est un bon match, un but, une passe, quelque chose pour lancer ma saison. Je suis à 100% et j'espère donner le meilleur de moi-même dans les prochains matchs pour que les fans ils soient heureux, tout simplement.
Les fans, il faut qu'ils soient heureux. Il est pas, voilà, il s'inquiète pas, notre ami Eden Hazard, par la situation, même si les médias espagnols commencent à s'inquiéter, qu'à voir aujourd'hui, hier plutôt, le titre du quotidien AS, Hazard toujours au point mort. On va accueillir maintenant quelqu'un qui connaît très bien Eden Hazard, qui l'a suivi pendant plusieurs saisons, puisqu'il vient de Chelsea, de la première ligue anglaise, Aurélien Devernois. Salut Aurélien.
Salut Jalal, salut Fred, salut à tous.
Avant d'évoquer avec toi donc la Ligue des Champions, rapidement un petit résumé de ce qui s'est passé chez toi ce week-end en Angleterre, où Liverpool a poursuivi son cavalier seul. Ça a été compliqué. Victoire étriquée 1-0 à Sheffield, suivi par Manchester City, vainqueur à Everton, alors que Chelsea et Tottenham à 10 se sont relancés lors de cette 7e journée.
Oui, ça s'est plutôt bien passé pour les gros et c'était nécessaire, si vous voulez, ces victoires avant d'entamer cette nouvelle semaine de Ligue des Champions, parce que
Voilà, on a quelques difficultés avec Aurélien Devernois. On va revenir à Madrid en attendant de rétablir bien sûr la liaison avec Aurélien. Donc on a parlé beaucoup du Real Madrid, mais il faut aussi s'attarder sur ce peut-être la, selon moi en tout cas, selon mon humble avis, l'affiche de cette de ces deux soirées européennes, mon cher Fred, c'est le FC Barcelone, auteur d'un nul heureux lors du premier match contre Dortmund, qui reçoit une équipe en grande forme, l'équipe de l'Inter de Milan, l'Inter de Milan d'un certain Antonio Conte, mon cher Fred.
On ne va pas dire que c'est une finale, parce que ce n'est pas le cas, mais c'est un match compliqué. C'est-à-dire que s'il n'y a pas victoire du Barça, il va commencer à y avoir un petit peu d'inquiétude. Alors Messi jouera, jouera pas, c'est toujours la question qu'on va se poser, parce que Messi est dans un état physique qu'on connaît. Il n'a fait même pas une dizaine d'entraînements cette saison, puisqu'il a été blessé plusieurs fois, parce qu'il n'a joué en tout et pour tout que 90 minutes, deux fois 45 minutes cette saison. Et il est très 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 loin de son niveau. On peut se poser la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux laisser Messi tranquille pendant un mois en disant voilà, tu ne joues pas, tu ne prends pas de risque et tu fais un travail, plutôt que de faire des bouts d'entraînement et de prendre des risques en match et de risquer justement, pardon pour la répétition, une blessure un peu plus grave musculaire parce que Messi ne va pas bien. Mais la situation du Barça est telle qu'elle s'en remet à Messi. C'est pas facile pour Valverde, pas facile pour lui. En plus, vous avez Dembélé qui a de nouveau forcé, il n'a pas dit qu'il avait mal, il s'est de nouveau blessé, enfin c'est terrible quoi. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que Antoine Griezmann c'est vraiment le moment pour lui de montrer pourquoi il est au Barça aujourd'hui. Je pense qu'il peut être le joueur le plus important parce que Griezmann a le talent pour être le leader de cette équipe en l'absence de Messi. Ça, j'en suis intimement persuadé.
Voilà donc pour ce choc entre l'équipe du FC Barcelone et aussi la formation de l'Inter de Milan. On va revenir du côté de la Première Ligue, mais pour évoquer, il reste quelques petites minutes à passer ensemble la Ligue des Champions. De toute façon, la Ligue des Champions était une compétition anglaise lors de sa dernière édition. Beaucoup de clubs anglais qui sont en lice. Moi, j'aimerais qu'on parle de Tottenham, finaliste de la dernière édition, qui accueille le Bayern de Munich, porté par un Robert Lewandowski insatiable. À l'occasion de cette affiche, les Spurs, accrochés chez l'Olympiakos de but partout après avoir mené 2-0, vont devoir maintenant aller s'employer face aux Bavarois pour prendre les commandes de ce groupe B, d'autant que la saison de Tottenham est loin d'être un long fleuve tranquille.
Oui, alors disons que vraiment le résultat minimum qui est attendu du côté de Tottenham, c'est un match nul. Hein. Vraiment, ça serait vraiment le minimum attendu et si possible, en effet, une victoire pour se relancer dans cette Ligue des Champions face au Bayern. Ça va être intéressant, vous parliez de Lewandowski, Jalal, mais ça va être intéressant de voir le duel entre d'un côté Lewandowski et de l'autre côté Harry Kane, parce que je pense que c'est vraiment dans leur style probablement les meilleurs avant-centres d'Europe aujourd'hui. Ils sont vraiment très très performants depuis le début de saison. Kane a encore marqué ce week-end. Il a d'ailleurs rattrapé une boulette de Lloris qui avait remis les deux, c'est Tottenham et Southampton à égalité. Donc voilà, ça va être intéressant de voir qui des deux va se mettre le plus en lumière lors de cette rencontre. Ça va être un match intéressant, je pense.
Voilà donc l'équipe de Tottenham contre le Bayern de Munich. Une journée européenne avec plein de rendez-vous et qu'on va tous, bien entendu, commenter. Ça sera à l'occasion de prochain rendez-vous. Ça sera vendredi dans l'avant-match avec Hakim. Je vous donne rapidement quelques affiches. Real Madrid contre le club de Bruges, Galatasaray contre le Paris Saint-Germain groupe A, ça c'est les matchs de demain, toujours demain, Étoile Rouge de Belgrade, Olympiakos, Tottenham, Bayern de Munich, groupe C, Atalanta Bergame, Shakhtar Donetsk, Manchester City, Dynamo de Zagreb, groupe D, Lokomotiv Moscou, Atlético Madrid et Juventus Turin contre le Bayer Leverkusen. Et puis les amis, mercredi, Slavia Prague, Borussia Dortmund, Genk, Naples, Liverpool, Salzbourg, Lille, Chelsea, Zenit, Benfica, Valence, Ajax FC Barcelone, Inter de Milan et Leipzig contre Lyon. C'est la fin de cette édition de l'après-match. Merci Fred.
Adios les amis, merci Jalal, merci à tous.
Les risques du métier, bien sûr, quand on est un reporter de guerre, il y a des choses qui peuvent arriver.
Il y a des pigeons voyageurs.
Voilà, il y a des pigeons voyageurs. Merci beaucoup Aurélien de Vernois.
Ciao les amis.
Merci aussi à David Lortolari, à Hervé Penaud et à Simone Rovera. Merci aussi à Essam, notre réalisateur. C'est la fin de cette édition de l'après-match. Merci de l'avoir suivi. Ciao, ciao les amis, à lundi.
Dybala centralmente, ancora grande idea, vantaggio Juve, a sorpresa con un inserimento alle spalle della difesa del Milan.
Buona partita per il Milan, le mani, 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 le gol, 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 gol.
Si fa Davide, e Neymar, voilà, et voilà le premier but, et Neymar revient sur le service de Nitzel Cavani, apprêté pour un rendu entre l'Uruguayen et le Brésilien, une relation qui est en train de naître.
L'après-match avec Jalal Bouzrara.